Ceci n'est pas une pipe.
Ceci n'est pas une pipe.
Ceci n'est pas une pipe.
Écoutez, vous allez voir ce que vous allez voir.
Art contemporain, qu'est-ce que c'est pour moi ?
Étrange.
Art.
Espace, œuvre, expérience.
Subjectif.
Art, je pense à quoi ?
Ah mais je t'ai dit que j'y connaissais rien.
Exposition.
La découverte. Du rire parfois.
Photographie, art plastique, dessin, installation, performance.
Ça peut servir à faire passer un message.
Art avec des crayons, une gomme.
Eh bien, c'est ce qui nous aide à vivre en fait, et dont on a tous besoin.
Ceci n'est pas une pipe.
Bonjour et bienvenue dans Ceci n'est pas une pipe, l'émission qui vous parle d'art contemporain sur Jet FM 91.2. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir le travail des résidents et résidentes de l'exposition Itinerancia, présentée à l'École des Beaux-Arts de Nantes-Saint-Nazaire, de Allée Frida Kahlo sur l'île de Nantes, jusqu'au 20 mai 2023, et la résidence de création de la Casa de Velázquez. L'exposition collective Itinerancia rassemble, sous le commissariat de Virginie Bourget, les œuvres de la promotion 2021-2022 des artistes en résidence de l'Académie de France à Madrid, section artistique de la Casa de Velázquez, et de deux artistes boursiers de la ville de Valencia et de la Diputación provinciale de Saragossa. Les artistes exposés sont Naja Albucay, Carmen Ayala Marin, Chloé Belloc, Maxime Biou, Lise Goder, Mathilde Letiboudois, Ana López Luna, Eve Malherbe, Alberto Martín Menacho, Adrien Menu, Pablo Pérez Palacio, Arnaud Rochard et Mary Salès. À leur côté sera également présenté le travail de Julie Maquet, artiste plasticienne, lauréate de la bourse Casa de Velázquez, département Loire-Atlantique, en 2022. Elle y présente les fruits du projet développé durant son séjour de 3 mois en résidence à la Casa de Velázquez. Pluriel par définition, l'exposition Itinerancia couvre un grand nombre de disciplines, de la peinture à l'art vidéo, en passant par le dessin, la sculpture et le cinéma. On va aller à la rencontre de Virginie Bourget, chargée des arts visuels au département de Loire-Atlantique et commissaire de l'exposition Itinerancia, pour qu'elle nous présente la résidence de la Casa de Velázquez et l'exposition. Ensuite, nous aurons le plaisir de découvrir le travail de Julie Maquet et Arnaud Rochard en leur compagnie. Allez, c'est parti, suivez-moi, vous allez voir ce que vous allez voir. Donc du coup, on est dans l'exposition Itinerancia à l'École des Beaux-Arts de Nantes-Saint-Nazaire. Donc on vient de retrouver Virginie Bourget, qui est chargée des arts visuels au département Loire-Atlantique. Bonjour Virginie.
Bonjour.
Alors, donc on est dans l'exposition que tu as commissariée et qui montre le travail des anciens résidents et résidentes de la Casa Velázquez. Est-ce que tu peux nous te présenter dans un premier temps ?
Effectivement, je suis en charge des arts visuels pour le département de la Loire-Atlantique. Pour parler de l'exposition, donc c'est une exposition des artistes qui ont été résidents à la Casa de Velázquez sur l'année 2020-2021. Il y a 13 artistes qui ont été résidents sur cette période. Et il y a aussi une artiste du département qui a eu une bourse qui est partie 3 mois, Julie Maquet. C'est un partenariat avec la Casa de Velázquez qui remonte à la Garenne-le-Mont, aux années 90, où il y avait eu un partenariat en fait entre la Garenne-le-Mont, donc qui est sous la tutelle de Le Mont, qui était académicien, la Casa de Velázquez, qui est sous la tutelle de l'Académie des Beaux-Arts, et la Villa Médicis aussi. Et le partenariat a perduré depuis, avec cet accueil d'une exposition tous les ans des artistes résidents.
Spécifiquement pour le dispositif de la Casa Velázquez, comment ça se passe ?
Alors, le partenariat, il a 3 volets. Il y a le volet de l'exposition Itinerancia, qui est une exposition non pas d'œuvres qui circulent, mais d'artistes qui circulent, donc les artistes résidents. Après, moi je fais un choix d'œuvres en dialogue avec les artistes pour le lieu à Nantes. Il y a un autre volet donc, qui est la résidence de 3 mois, donc cette ce partenariat de bourse, là on est sur la 6e artiste qui est partie à la CASA de septembre à décembre. Et on a le dernier volet, en fait, c'est ma participation au jury de sélection des artistes qui partent sur une année. Ce qui permet aussi d'avoir un regard sur le projet des artistes avant qu'ils partent et voir comment il s'est développé et où se trouve finalement l'évolution, ou en tout cas quelle est la résultante de ce projet et de ce temps de résidence.
La restitution de ces résidences, donc les résidents et résidents de travail pendant un certain temps à la Casa de Velázquez. Ensuite, il y a cette restitution en exposition. Donc là, on est à l'École des Beaux-Arts de Saint-Nazaire. Les années précédentes, c'était le cas aussi ?
Ça fait 3 ans qu'on est à l'École des Beaux-Arts. On a été précédemment au Musée d'Aubray, et puis pendant à peu près 5-6 ans, et puis avant, on était à la Garenne-le-Mont, effectivement.
Donc à chaque fois, c'est des manières d'agencer les œuvres qui sont un peu différentes. Comment tu procèdes ?
Alors, je vais à la Casa en général en juin, au moment où ils ont pratiquement fini, finalisé leur résidence. Toutes les œuvres ne seront pas forcément finies, mais il y a déjà énormément de pièces qui sont en cours ou presque terminées. Et on échange, on discute, ils me présentent ce qu'ils ont fait. Et à travers tout ça, moi, je dis qu'éventuellement, bon, telle ou telle pièce pourrait m'intéresser. Aussi en réfléchissant comment elles peuvent fonctionner entre elles, des échos ou des résonances qui peuvent se mettre en place entre les œuvres. Après, il y a des artistes qui ont des choix très, très définis. Je prends l'exemple de Mathilde Estiboudois qui avait fait une série de 3 tableaux avec 3 temps, 3 heures finalement de lumière. Et elle souhaitait qu'il y ait un des 3 temps qui soit pour Nantes, un des 3 temps pour Paris et le précédent pour Madrid. D'autres artistes, si je prends Lise Godert, elle est venue sur place à Nantes. Bon, elle habite à Rennes, donc c'était aussi plus facile de discuter avec elle, qu'elle vienne sur place pour voir les lieux. Et à partir de là, on a fait ensemble le choix des photographies qui pourrait être présentée en dialoguant. Elle avait vraiment cette envie de mettre son personnage, Fernando. Moi, de mon côté, j'aimais beaucoup la partie paysage. Dans le dialogue, on a trouvé la forme aussi du mobilier qui pouvait s'adapter à l'espace ici et aux pièces, aux petits dessins qu'elle avait réalisés, ces plantes résistantes.
Donc c'est quand même un vrai travail de dialogue entre les œuvres les unes et les autres, et c'est en fait finalement une sélection qui est assez spécifique au lieu et au fait que ça interagisse avec les œuvres des uns et des autres.
Oui, tout à fait. On a, comme l'espace est quand même limité pour 14 artistes, le choix se fait aussi quand je suis sur place. Je commence déjà à travailler sur plan, à me dire bon, je peux positionner, enfin faire des grands ensembles un peu thématiques. Et essayer de voir si je peux positionner tel artiste avec tel artiste. Et de là, à la fin de mon séjour, je suis à peu près capable de dire aux artistes c'est telle pièce, on pourrait la présenter, est-ce que c'est OK ? Et c'est assez rapide finalement, ce premier temps de choix. Après, il y a des aléas, il y a des expositions qui tombent pour les artistes, donc on fait des modifications, on voit, on ajuste, et puis voilà.
Et dans le choix des pièces, donc au niveau des médiums et des techniques qui sont utilisées, c'est assez pluridisciplinaire. Est-ce que ça a été un choix d'équilibré ou pas
En fait, les artistes sont sélectionnés donc, sur dossier par sous-comité, en fait, et ils postulent dans une catégorie, on va dire, d'art qui serait une dominante, parce que c'est rare qu'il y ait des artistes qui aient une seule pratique. Et donc, dans le processus de sélection des artistes, déjà, effectivement, il y a beaucoup de peintres qui postulent. Donc, souvent, il va y avoir une présentation un peu plus élevée des peintres. Mais après, sur les choix des œuvres, c'est vraiment en fonction de ce qu'ils ont fait ou de pistes qui ont pu me sembler intéressantes. Par exemple, on a ici Eve Malherbe qui a postulé à la Casa avec un projet de peintre. Finalement, elle a fait beaucoup de dessins au fusain, et elle a fait tout un travail aussi de mise en installation, de voile. Donc voilà, il y a aussi des artistes qui bifurquent par rapport à là où ils allaient initialement.
Finalement, ils sortent un peu de leur zone de confort aussi. C'est une des manières de s'approprier la résidence.
C'est un des avantages de ces résidences longues aussi. C'est qu'il y a le temps d'exploration qui est long et qui permet de partir sur d'autres pistes, de faire autre chose et de tester d'autres matières, d'autres matériaux. Et la rencontre avec les autres artistes aussi, entre eux, il y a des influences qui se font en fait hein, dans le dialogue, dans la façon d'une transmission de pair à pair en fait, qui peut aussi se faire.
Oui, il y a eu des exemples comme ça de personnes qui ont présenté des travaux en collaboration.
Pas cette année, pas dans l'exposition cette année, mais précédemment il y a eu des œuvres effectivement où il y a des compositeurs aussi à la Casa de Velázquez, donc il est arrivé que les compositeurs fassent la musique pour des vidéastes ou même pour des peintres, parce que finalement le peintre mettait en principe d'installation sonore son œuvre. Il y a des collaborations comme ça qui peuvent se faire, ou aussi avec des sculpteurs, différentes entrées qui se font d'un artiste à l'autre. Là, cette année, sur l'exposition, on a une seule sculpture. Il y a des années, il n'y a pas de sculpteur, mais c'est un peintre qui a fait la sculpture. Voilà. Et puis, on a l'installation de Julie Maquet, qui est plus dans l'installation, dans le volume, mais c'est un travail de dessin aussi. Donc, voilà, on a une hybridité comme ça qui s'opère, qui est assez intéressante.
Oui, on ira d'ailleurs interviewer Julie Maquet après, on découvrira un petit peu plus son travail, ainsi que le travail d'Arnaud Rochat. Est-ce que du coup, on peut-être déambuler un petit peu dans l'espace et que tu puisses nous guider pour pouvoir cibler les parties à l'oral, qu'on puisse imaginer un peu quelles sont les œuvres, de manière très brève, des autres artistes que Julie et Arnaud, qu'on verra un peu plus spécifiquement après.
Oui. Donc ici, dans l'espace central, on a le travail donc de Julie Maquet. Je vais la laisser décrire son installation et son travail très coloré dialogue aussi avec le travail haut en couleur de Carmen Ayala Marine, qui est une peintre espagnole qui a vécu en France pendant de nombreuses années et qui est intéressée à la figure de la Conchita, donc la femme immigrée espagnole venant travailler dans les maisons bourgeoises en France. Et voilà, son retour en Espagne était aussi de se dire quels sont ses attributs, est-ce que je m'en départis, est-ce que je les garde. Donc il y a un peu un travail d'autoportrait, mais elle a aussi rencontré trois femmes qui travaillent à la Casa de Velázquez, qui sont trois femmes hispaniques et qui sont les femmes de ménage et qui tiennent comme ça la casa. Et elle a souhaité en faire un portrait de toutes les trois.
C'est une peinture qui fait un format presque carré. Il y a trois personnages au centre. Trois personnes. On a des aplats de couleurs en arrière-fond rose avec une forme sphérique qui pourrait s'apparenter à une planète. De l'autre côté de ce fond, on a quelque chose de plus figuratif qui fait penser à un paysage. Et ce qui délimite ces deux espaces en arrière-fond, c'est un encadrement avec un câble, une ficelle, en tout cas quelque chose qui suspend un bouquet de fleurs qui est au premier plan devant ces trois personnages qui ont des vêtements noirs mais qui sont imbriqués les uns dans les autres. Il n'y a pas de délimitation entre ces personnages et on a de nouveau un aplat noir avec des vibrations sur des brillances et des matités. Et de ça ressort des parties de corps. On a une main en dessous ce bouquet de fleurs et un bras derrière ce bouquet de fleurs. Et la troisième personne a une main gantée avec un gant d'un autre rose que l'arrière-fond qui pourrait faire penser à un gant de ménage, un gant MAPA. Et ensuite, ces trois personnages ont l'air d'être en position assise, dont une, on identifie qu'elle est assise sur une forme en bois avec des variations de rouge qui reprennent des teintes du bouquet. Et on a de l'autre côté, de manière un peu symétrique à l'arrière-fond, on avait la moitié droite rose, puis le paysage. En dessous le paysage, cette forme rouge. En dessous le rose, on a un aplat gris sur lequel repose un oiseau qui a l'air plutôt en mauvais état. Et au même niveau que cet oiseau, nous avons les membres inférieurs de deux de ces personnes, dont une qui est chaussée avec des escarpins noirs et l'autre avec des chaussures que je dirais plutôt des chaussures de marche ou des baskets et avec des chaussettes, tandis que l'autre a les jambes nues. Et il y a un gros travail de couleurs sur ces parties de corps, donc les jambes, les mains et les visages. Donc, ces trois visages avec des expressions très différentes. Le personnage de droite a un sourire, mais on a du mal à savoir si c'est un sourire qui est forcé ou naturel. Elle a les lèvres a priori maquillées, en tout cas il y a une brillance et une rougeur à ses lèvres. Le personnage central a un regard plus fermé, mais on sent qu'elle est là, et elle a un regard frontal vers nous. Et le troisième personnage qui est plus à gauche a un regard plutôt qui exprime une émotion de tristesse, une retenue avec les yeux qui se dirigent vers le bas. Et donc à ces trois personnages, on a trois directions de regard puisque celle de droite a le regard fuyant et du coup on rentre dans ce cercle de regard. C'est Carmen Ayala Marin et l'œuvre s'appelle La Tourtelia.
Très bien, donc là on est dans l'espace central, donc quand on passe la porte de l'espace d'exposition.
On a le travail de Alberto Marin Menacho qui est cinéaste. Là il est justement en démarrage de tournée de son film. On a ici une série de photographies qui sont des photos de repérage pour son film. Son film travaille sur la question de la ruralité et qu'est-ce que c'est que d'être jeune en milieu rural avec le rapport aux traditions, à une agriculture traditionnelle, le rapport à la chasse. À côté, on a le travail de Arnaud Rochard, qui a un travail de lithographie et de tamponnage, mais il va expliquer tout à l'heure aussi son travail. À notre gauche, dans cet espace qui est à l'avant de la galerie, on a le travail de Lise Godert, qui est un travail photographique. Donc Lise Godert est partie à la CASA avec cette idée de travailler sur la question de l'oasis, paysage verdoyant. Et puis Carmen Ayala Marine, elle lui a dit, Carmen, mais va en Andalousie, c'est là que tu vas trouver des oasis, tu vas trouver ce que tu cherches. Et en fait, en arrivant là où elle allait, elle s'est plutôt aperçue que c'était... ce qui lui a sauté aux yeux, c'était la sécheresse, beaucoup plus que le paysage verdoyant. Et elle a cheminé dans ce paysage et elle a rencontré un homme, Fernando, dont on a deux portraits très sensibles de ce paysan qui, après avoir cultivé l'avocat, qui demande énormément de ressources en eau, pose problème justement dans cette... crise. Il a revu sa façon de travailler la terre et il s'est adapté à une culture plutôt de cactus et il cultive le pitaya qui donne le fruit du dragon. Et elle a un ensemble de petits dessins dont je parlais tout à l'heure qui représentent ce qu'on pourrait dire des mauvaises herbes, mais elle les appelle plutôt les résistantes parce que justement, qu'est-ce qui est réussi encore à pousser dans cette sécheresse, c'est ces petites plantes. Et à côté, elle travaille beaucoup par écrit aussi. Elle écrit ses pensées sous forme de petits poèmes, ça fait un peu petit haïku. Et là, il y a une série de poèmes qu'on peut prendre.
Qu'on peut prendre et lire, et ce sont des poèmes différents.
Oui, oui, il y a une vingtaine de poèmes différents. Si on en lit un, nouvelle fenêtre, nouveau paysage, ici, pour une année, ici, comme une oasis, les pins m'entourent, pins maritimes, pins Weymouth, pins de motorets, pins à l'encens, encore, je ne sais pas. On m'a dit, va à l'Axarquia. Donc son travail s'appelle Oasis, je marche dans le lit des rivières.
Très bien, je vais le garder, comme ça, je me rappellerai. Donc là, on arrive au fond de l'exposition.
Ici, c'est le travail de Mary Sales, qui est une peintre espagnole. Parce qu'il y a des boursiers aussi espagnols qui sont en résidence à la CASA. Elle est de Valence et elle a fait tout un travail de peinture autour de la couleur rouge pendant sa résidence et notamment elle a beaucoup travaillé autour de son habit de travail qui est l'habit traditionnel un peu comme le bleu français mais qui est rouge en Espagne. Elle a aussi fait son autoportrait qui est son habit suspendu.
C'est un rouge de travail du coup.
Le travail de Chloé Belloc qui est une cinéaste plutôt issu de l'expérimentation plus que du film classique, d'un travail d'image et de montage assez complexe. Là, pendant la CASA, elle a entamé un film et une réflexion autour du rapport à la nature, du rapport de l'humain à la nature, et elle nous fait une proposition de conte. On peut imaginer ça comme un conte, oui. Où il y a une forêt qui brûle et dans cette forêt vit une petite fée, enfin un petit personnage qui sort d'une chrysalide et qui vient réensemencer la terre après la tabula rasa. Donc ça s'appelle Musicenae.
C'est une vidéo qui dure combien de temps ?
7 minutes à peu près. J'ai pas précisément le temps.
Musicenae, on entend dire parfois que se niche au creux des arbres des esprits. Que c'est le feu qui l'a réveillé et que si le feu vient jusqu'à son arbre, elle devra mourir avec lui. Alors elle a passé un pacte avec la forêt. Là où elle posera le premier pied sur le sol qu'elle n'a jamais touché, elle mettra en terre une plante et elle dansera avec elle.
Là, quand on retraverse et qu'on se redirige de l'autre côté, on tombe dans l'autre alcôve
Au fond, en vis-à-vis finalement pratiquement du travail de Chloé Belloc, on a le travail de Ève Malherbe, dont je parlais tout à l'heure, qui a ce travail sur le drapé notamment. Voilà, elle était partie avec un projet de recherche en peinture sur le drapé, et puis le drapé a pris la forme de volume avec des vrais draps, un travail de teinture. Et là, ici, elle nous propose simplement un petit dessin au fusain qui est un dormeur. Des deux côtés, de part et d'autre de son travail, le travail de Anna Lopez Luna. À droite, il y a une vidéo sur les femmes travaillant dans les mines. Qu'est-ce que ça veut dire, travailler dans une mine en tant que femme? Quel est le rapport aux mentalités, aux stéréotypes? Et comment elles se positionnent, ces femmes espagnoles, dans ce paysage? Et en vis-à-vis, deux collages, en fait, on retrouve aussi beaucoup de collages dans tout son travail, mais aussi dans le film. Donc deux collages qui parlent du rapport au pouvoir, rapport du pouvoir français à la dictature de Franco.
Donc là, quand on se retourne, il y a un socle.
Il y a un socle avec une petite sculpture qui est la sculpture de Pablo Pérez Palacho, peintre espagnol très conceptuel. Ce labyrinthe représente en fait son idée de sa relation à l'espace, où il dit en fait on est des gens, on procède par couches dans nos déplacements, on va d'un endroit à un autre, on y revient et puis ça s'accumule et c'est par ce phénomène finalement de couches qu'on finit par connaître un peu les choses et où éventuellement se perdre. À sa gauche, le travail de Mathilde Lestiboudois, qui a aussi un travail sur l'espace, un travail de peinture. Elle a aussi travaillé le drapé. C'est des thématiques qui reviennent beaucoup aussi, notamment, bon, il y a la question de la lumière en Espagne qui revient souvent. Il y a la question, voilà, du drapé, parce que les peintres espagnols classiques ont vraiment cette approche du drapé. Puis dans les musées, les artistes sont très intéressés à aller découvrir les peintres dans les musées, notamment au Prado. Et donc là, elle a créé cet espace. En fait, elle crée des espaces vides dans lesquels, par des principes d'horizon et de dégradé, elle vient poser simplement quelques éléments. Ici, trois chaises, les arches dessinées du patio de la Casa de Velázquez. Et puis voilà, après, on est dans un espace finalement qui existe avec très peu d'éléments. En vis-à-vis, on a le travail de Naja Al-Boukaï, qui est un artiste syrien. Un travail assez dur, assez fort. C'est un artiste qui a été emprisonné par le régime de Bachar al-Assad et qui a donc nous livre un ensemble de gravures et de dessins sur ce qu'il a vécu et comment il se remémore en fait ses souvenirs, comment il se remémore ces moments, transporter les corps, les supplices, et puis cette envie de s'échapper, en fait. Donc il y a la présence de l'échelle aussi qui est assez présente. Ce qui l'intéressait au départ en allant en Espagne, c'était aussi de se confronter à un ancien régime dictatorial et comment on pouvait faire mémoire, vivre avec ce passé. Et il a aussi beaucoup observé le travail de Goya, qui a un travail de gravure. Et la dernière pièce, donc Maxime Biou, il a deux pièces. Une pièce qui est plus petite, qui a un enfant qui dort. Mais si on la met en relation donc avec cette autre pièce qui renvoie aussi à des corps qui sont dans des linceuls, en fait, qui sont accumulés comme ça dans l'espace. Est-ce que ce sont des migrants? Est-ce que ce sont effectivement des Syriens qui sont décédés? On ne sait pas trop situer, mais on se projette bien dans une actualité qui arrive un peu trop souvent. C'est une pièce qui est beaucoup plus politique que l'ensemble de son travail, qui, pendant qu'il était à la Casa, il a beaucoup peint des corps sur des lits, des chats. Mais bon, il a un travail de peinture avec beaucoup de textures, un travail sur la lumière aussi, beaucoup, qu'on retrouve ici aussi dans ce tableau.
Et qui fait écho aux autres drapés, même voilà. Si ce n'est pas la même thématique.
Tout à fait.
Très bien, merci beaucoup Virginie pour toutes ces explications. Si on veut venir voir l'exposition, combien de temps ça dure?
Alors l'exposition est ouverte jusqu'au 20 mai, elle est ouverte du mercredi au samedi de 13h à 18h. Et le jeudi midi, il y a des visites guidées, enfin de 13h à 14h, une petite possibilité d'avoir une visite guidée pour un temps plus précis de médiation avec l'équipe de médiateurs, mais sinon l'équipe de médiateurs est là pour répondre aux questions.
Très bien, et j'invite les auditeurs et auditrices à venir se déplacer dans l'espace d'exposition pour venir découvrir l'exposition Itinerancia. Si on veut postuler à la Casa de Velázquez, si on est artiste et qu'on souhaite postuler à ce dispositif de résidence, comment ça se passe?
Alors, l'appel à candidature devrait être en ligne la semaine prochaine, jusqu'à fin mai. Ce sera en ligne sur le site du département de Loire-Atlantique pour pouvoir postuler.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Oui, si on veut trouver des informations sur l'exposition, tout est disponible sur le site de la Loire-Atlantique.
Oui, et puis sur le site de l'École des Beaux-Arts aussi. Ça donne deux entrées, parce que c'est vrai qu'on a un partenariat avec l'École des Beaux-Arts aussi qui nous accueille dans ces lieux. Ce n'est pas une exposition d'étudiants, c'est l'occasion aussi pour les étudiants d'être au contact d'autres artistes et de découvrir leur travail et ce qu'on peut faire justement dans un cadre de résidence.
Et puis oui, vous pouvez retrouver les informations sur l'application ReadyMade aussi. Et donc, merci beaucoup. Du coup, je vais aller retrouver Julie et Arnaud pour avoir un peu plus d'informations sur leurs pièces à eux. Mais merci d'avoir pu porter la parole des artistes qui sont présents dans l'exposition. Et puis, je te souhaite une très bonne fin de journée.
Merci à toi.
Merci, au revoir.
Au revoir.
J'aime beaucoup l'ambiance. Juste trois chaises seules avec des drapés posés blancs, simples. Juste posés dans la forme de chaque chaise. On pourrait imaginer un petit peu des personnes qui sont posées dessus, mais il y a juste du vide. Et c'est accompagné par un fond un petit peu dégradé, du plus foncé bleu au plus clair un peu jaune, avec un joli sol gris. On arrive très bien à capter les perspectives grâce aux chaises et les drapés. Et on se concentre beaucoup plus sur les détails des drapés qui sont vraiment là pour être regardés.
Du coup, c'est une grande toile. Environ, 1m50 sur 1m20, peut-être un peu plus, avec beaucoup de blanc. Je pense qu'il n'y a que du gris comme palette. La peinture, elle est étalée avec un pinceau, mais je pense qu'avec peu de médium. Du coup, ça crée beaucoup de petits tas de volume. Il y a du relief dans la peinture. C'est une peinture qui représente figurativement des hommes ballotté dans des, ce qu'on pourrait penser, c'est peut-être des sacs de couchage ou des sacs, je sais pas, ça crée une ambiance un peu étrange. Tous les personnages visibles, il n'y a que deux personnages visibles, les deux sont des hommes noirs, le reste on devine qu'ils sont noirs aussi, avec quelques détails, on voit que leur visage qui dépasse. Si j'essaye d'imaginer, je pense que ça pourrait peut-être parler de l'immigration, quelque chose comme ça. Des voyages où du coup les migrants ils doivent se cacher dans des soutes de camions ou des trucs comme ça. Ils sont baluchés avec je sais pas, une bâche ou un truc. Du coup il y a beaucoup de contraste dans les couleurs. Pas beaucoup de lumière, même s'il y a du blanc, c'est du gris plutôt, un peu bleuté. Maxime Biou est une toile qui n'a pas de titre. Et pour les dimensions, c'est 1m60 sur 2m.
Vous êtes toujours dans Ceci n'est pas une pipe, l'émission qui vous parle d'art contemporain sur Jet FM 91.2. On est au cœur de l'exposition Itinerancia, qui présente le travail de Naja Al-Boukaï, Carmen Ayala Marine, Chloé Belloc, Maxime Biou, Lise Coderre, Mathilde Letty-Boudois, Anna Lopez-Luna, Eve Malherbe, Alberto Martin Menacho, Adrien Menu, Pablo Pérez Palacio, Arnaud Rochard, Mary Sales et Julie Mac. On va faire une petite pause musicale avec la composition Ciudades Limitrofes de Gabriel Sivac, résident de la Casa de Velázquez dans la branche composition musicale 2022. Vous êtes toujours dans Ceci n'est pas une pipe, l'émission qui vous parle d'art contemporain sur JetFM 91.2. On vient d'écouter la composition Ciudades Limitrofes de Gabriel Sivac, qui est résident de la Casa de Velázquez dans la branche composition musicale en 2022. On est au cœur de l'exposition Itinerencia, qui présente le travail de Naja Albucay, Carmen Ayala Marine, Chloé Belloc, Maxime Biou, Lise Godard, Mathilde Letty-Boudois, Anna Lopez Luna, Eve Malherbe, Alberto Martin Menacho, Adrien Menu, Pablo Pérez Palacio, Arnaud Rochard, Mary Salès et Julie Maquet. On vient de quitter Virginie Bourget qui nous a présenté le dispositif de résidence de la Casa de Velázquez et l'exposition Itinerencia. On va aller rejoindre Julie Maquet et Arnaud Rochard pour qu'ils nous présentent le travail qu'ils ont réalisé à la Casa de Velázquez et qui est visible dans l'exposition Itinerencia jusqu'au 20 mai à l'École des Beaux-Arts de Nantes-Saint-Nazaire qui est située 2 allée Frida Kahlo sur l'île de Nantes. Allez, c'est parti, suivez-moi. Donc, on vient de rejoindre Julie Maquet qui va pouvoir nous parler un petit peu plus de son travail et plus précisément des œuvres qu'elle présente dans l'exposition Itinerencia. Bonjour Julie.
Bonjour.
Alors déjà, est-ce que tu peux nous te présenter dans un premier temps?
Eh bien, donc moi c'est Julie Maquet, je suis artiste plasticienne, je suis sortie de l'École des Beaux-Arts d'Angers en 2015 et depuis je suis installée à Nantes où je vis et je travaille. J'ai un travail principalement de dessin, sculpture et installation. Et mes travaux sont souvent situés à la frontière entre les trois. Donc en volume, je vais plutôt travailler avec des objets qui sont donc manufacturés, qui vont tous avoir le même gabarit, la même taille, la même forme. Et je vais réintervenir dessus à la main pour opérer une transformation. Donc j'ai un rapport aussi à l'accumulation, à la répétition qui est très fort. Donc il y a une matérialité qui est très présente en tout cas dans mon travail de volume. Et on peut retrouver aussi cette matérialité dans mes dessins qui de plus en plus ont une dimension tridimensionnelle. Donc le dessin peut devenir aussi lui-même installation et volume.
Ce qui est le cas pour l'exposition en cours. Donc c'est un travail que tu as réalisé en résidence. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi tu as décidé de faire cette résidence et comment elle s'est passée?
Donc cette résidence, en fait, elle m'intéressait déjà parce que donc, c'est un partenariat entre le département de Loire-Atlantique et la Casa de Velázquez à Madrid. Et je trouvais que donc, là, c'était un format de 3 mois. Et je trouvais qu'elle me correspondait bien dans le sens où elle regroupait à la fois mon besoin d'ancrage sur un territoire qui est Nantes pour moi et aussi mon envie et mon besoin de mobilité. Donc en fait, il y avait une double identité. Elle est basée sur ces deux points-là qui pour moi sont vraiment importants parce que je suis quelqu'un qui part et qui revient, qui repart aussi. Et donc le format 3 mois était intéressant aussi pour avoir quand même le temps de développer un projet ailleurs en résidence.
Et donc comment ça se passe la résidence? Donc Virginie Bourget nous a présenté un peu plus tôt la résidence et comment elle fonctionnait et les expositions qui en découlaient. Donc on en sait un petit peu plus, mais comment toi tu l'as vécu?
Donc en fait, moi je l'ai vécu comme une sorte d'immersion dans une ville nouvelle pour moi, que je ne connaissais pas. Donc en fait, c'était aussi une découverte avec des nouvelles personnes, des nouveaux artistes, une nouvelle équipe, un tout nouveau contexte de résidence, dans un lieu assez prestigieux quand même qu'est la Casa de Velázquez, donc avec un accueil vraiment sur place. Et en fait, 3 mois, c'est en même temps court et long. L'idée, c'est vraiment de découvrir la ville, les alentours. Je suis même allée un petit peu plus loin jusqu'en Andalousie aussi, voire d'autres villes. Et l'idée, c'est vraiment, en tout cas, d'alterner des moments de travail à l'atelier et à la Casa de Velázquez et des moments aussi ailleurs. Et donc, pour moi, le travail d'atelier, il était un peu comme une retranscription aussi des expériences vécues sur place, de maillage, de liens, de rencontres. Moi, j'ai vraiment ciblé je me rends compte avec du recul, cette résidence, ça a vraiment été un lieu de rencontre aussi avant tout. Et justement, dans les dessins, cette histoire de maillage, de crayonnage, de tricotage dessiné, si je puis dire, pour moi, je pense, reflète aussi ça. Et le sujet que je m'étais un peu donné, en tout cas pour la Casa de Velázquez, c'était de travailler la couleur, donc d'habiter les espaces avec la couleur, d'occuper un espace d'exposition, avec une envie d'utiliser des gros feutres, des gros marqueurs pour fabriquer comme une sorte de cartographie colorée qui se déploie dans l'espace.
Donc si tu devais nous décrire un petit peu plus formellement pour que les auditeurs et auditrices s'imaginent tes œuvres installées dans l'espace d'exposition, tu viens de parler effectivement des couleurs, est-ce que tu peux préciser quelles couleurs et puis comment c'est installé?
installer. Et puis aussi, du coup, effectivement, tu en parlais juste avant, la manière de déployer ton travail en volume, même si c'est du dessin. Quels sont ces choix-là et comment tu décides de les installer?
Donc en fait, l'installation qui est présentée ici, en tout cas dans Itinerantia, elle présente la moitié de la série totale que j'ai réalisée à la Casa de Velázquez et après à mon retour en France. Donc à la base, on a 8 dessins. Chaque dessin mesure 1 mètre par 5 mètres, donc on est sur des très grands rouleaux de papier, comme des laits de tapisserie en fait, sauf que c'est du papier marqueur. Il y a un univers graphique qui est identique pour chaque dessin, donc il s'agit d'un agglomérat de masses colorées assez grosses et d'agencements de couleurs avec des fluos roses, verts, jaune et des marqueurs noirs et bleus pour créer du contraste. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler avec des outils de dessin assez gros, donc des gros feutres, des gros marqueurs, des fluos à grosses mines, pour pouvoir justement investir l'espace de la feuille et aussi de l'exposition. Donc sur les quatre formats présentés dans l'école, il y a deux simèzes. Sur une des simèzes, on a un grand format qui vient couler, qui vient prendre ancrage dans la simèze et qui ressort jusqu'au sol. À côté de lui, on a un deuxième dessin, lui, qui est présenté à l'horizontale et qui est déroulé au tiers et avec ses deux rouleaux visibles et apparents sur les côtés. On a sur la deuxième simèze, qui est plus haute, un autre format tout en hauteur qui doit être déroulé sur 3,50 m et on a à peu près 1,50 m au sol qui déborde et qui est un petit peu enroulé. Et on a un dessin qui est déployé plus en volume vraiment dans l'espace, pour le coup, qui est posé sur deux tréteaux et qui vient faire une vague entre ces deux tréteaux avec un jeu du coup de montagne, si je puis dire, avec les couleurs apparentes. Donc l'idée, c'est qu'on soit à la fois dans une installation où le dessin peut apparaître au mur, mais aussi dans l'espace, pour créer comme une déambulation, si on le souhaite, entre les formats.
Et donc, du coup, tu disais, il y a un rapport entre le choix des couleurs et les potentiels ressentis que tu as eus du territoire.
Donc, en fait, je sais que donc, sur une résidence de 3 mois, avec deux expositions à la clé qui se suivent, donc il y a l'exposition à la Casa de Velázquez et l'exposition à l'École des Beaux-Arts qui sont simultanées, on arrive avec un projet, une envie, en tout cas, qui est peut-être plus ou moins définie, mais quand même avec une idée de projet qui peut aboutir, en fait, à une production. Car les 3 mois laissent un temps de recherche, pour moi, à peu près 1 mois et 2 mois de production sur place. Et ensuite encore 6 semaines de production en France. Et donc en fait j'avais quand même l'idée en arrivant à la Casa de développer mon univers graphique parce que toute cette recherche de variation de couleurs, de crayonnage, de format, c'est quelque chose que je vais mener toute ma vie. Donc il y avait quand même une envie de travailler avec des fluos, mais voilà, je savais pas exactement comment ça pouvait se manifester sur la feuille et dans l'espace. Et donc en fait j'avais envie, je pense, de choses assez contrastées et très lumineuses aussi parce qu'on avait un grand atelier donc à la Casa de Velázquez dans le jardin principal. Et donc ça donnait envie aussi de pouvoir se déployer au niveau de la lumière, au niveau de la couleur, au niveau des formats, parce que j'ai pas toujours des espaces de travail assez grands pour créer des grands dessins. Et donc voilà, après j'ai intégré donc ces dessins vraiment dans ma vie quotidienne, selon mes envies du moment, voilà. Et je pense qu'il y avait un aspect méditatif aussi qui me permettait, parce qu'il y a quand même une sorte d'excitation et d'euphorie en fait parfois à être ailleurs et de visiter des choses, de rencontrer des gens, de partager. J'ai vraiment des choses fortes avec eux. Du coup, cet aspect méditatif, je pense, ça venait aussi, ça me permettait, je pense, d'assimiler aussi, en fait, toutes les expériences que je vivais sur place. Et donc, les dessins peuvent former, en fait, comme une cartographie, sans que ce soit forcément un plan prédéfini. Il y a quand même une histoire de contour, de rencontre entre des masses de couleurs. Il y a des formes aléatoires qui se forment, même au niveau de la main et du geste, de l'ordre un peu de la déambulation. On a des zones de papier blanc aussi qui restent apparentes, qui forment des espèces de frontières ou de passages, je sais pas trop comment expliquer ça. Et c'est peut-être comme une cartographie mentale en fait, plus intuitive, une vue de l'esprit, juste de ressentis, de choses vécues. Et toujours cette histoire de maillage qui ramène aussi beaucoup au textile, et même les dessins, ils ont souvent un aspect textile. L'idée c'est qu'on voit les intentions du geste, les intentions du crayon, du crayonné. Et en fait, ces formes, pour moi, elles sont organiques, parce qu'elles rappellent aussi du poil ou une espèce de champignon, en fait, qui viendrait se développer sur la feuille. Et en fait, j'ai l'impression que cet aspect organique, c'est plutôt un prétexte pour parler de croissance, en fait, de quelque chose qui se déploie. Donc la feuille, elle est là pour mettre une forme de limite, mais en fait, dans l'imaginaire, on pourrait penser que ces masses, elles viennent investir les murs, le sol, le plafond. En fait, ça serait comme un échange de quelque chose de plus gros, mais que je laisse le spectateur imaginer.
Très bien, bien merci pour toutes ces explications de ton travail, de ce que tu as réalisé à la Casa Velázquez. C'est quoi la suite pour toi? Est-ce que tu vas continuer à faire des résidences ou
Alors, moi, je sais que j'aimerais bien continuer donc, à faire des résidences en France et à l'étranger. Je me penche un peu plus aussi sur le format de résidence de recherche qui permettrait d'équilibrer pour moi des temps de recherche de manière équitable avec mes temps de production parce que je produis beaucoup. Et parfois, on a besoin peut-être d'un ralentissement. Et je pense que la résidence à la Casa de Velázquez, qui était de 3 mois, donc pour moi, qui était très très bien, mais peut-être un peu courte, ça m'a aussi fait prendre conscience que j'avais besoin et envie d'avoir plus de temps aussi sur place déjà, donc de faire des résidences peut-être même plus longues.
Est-ce qu'il y a des expositions à venir ?
Donc il y a une exposition en ce moment à la Casa de Velázquez qui s'appelle Casa & Co. 5, qui regroupe en fait le travail des étudiants boursiers de l'année 2022. Il y a également le 2 mai, donc le lancement de l'édition qui a été réalisé dans le cadre de ma résidence à la Casa de Velázquez. Donc c'est une édition de résidence qui a été réalisée par les éditions Paris-Brest, Grégory Valton, qui est lui-même artiste et qui est venu en fait 2 jours à Madrid avant mon départ, dans l'atelier, pour photographier avec moi donc les dessins que j'avais réalisés jusqu'ici. Et donc on a créé une édition qui en fait est comme un processus de montage et de démontage et de montage et de démontage où on fait des essais d'accrochage des dessins et qui reflète bien en fait justement cette dimension tridimensionnelle que j'avais envie de donner au dessin.
Ce lancement, il se fera où ?
Donc ce lancement se fera à la galerie Open School de l'École des Beaux-Arts de Nantes, le 2 mai à 18h30.
Oui, et l'édition, si on veut la voir, elle est consultable dans l'espace d'exposition.
Oui, tout à fait. Et aussi, donc, j'ai une œuvre qui est installée dans le cube en verre du parvis du Musée d'Art de Nantes depuis le mois de février et qui sera visible jusqu'au mois d'octobre. Donc c'est une œuvre dans l'espace public qui s'appelle Ronce.
Ça donne un peu un indice. Je laisserai les auditeurs et les auditrices se déplacer au Musée d'Art pour découvrir cette autre pièce de Julie Maquet. Donc j'invite les auditeurs et auditrices aussi à se déplacer dans l'espace d'exposition de la Galerie de l'École des Beaux-Arts de Nantes-Saint-Nazaire pour découvrir l'exposition Itinerantia qui a lieu du 14 avril au 20 mai, ouvert du mercredi au samedi de 13h à 18h. Merci beaucoup Julie pour toutes ces explications, on te souhaite une bonne continuation. Puis on va aller retrouver Arnaud qui va pouvoir nous présenter aussi son travail, qui fait partie des anciens résidents de la Casa Velázquez. Et je te souhaite une très bonne journée Julie, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Oui, alors c'est vrai qu'on a une impression de tapis, quelque chose de très précieux. Et puis on approche, et puis c'est quelque chose qui est presque de l'art numérique, je crois. Hein. Je ne voudrais pas me tromper. Mais il y a une belle harmonie, il y a quelque chose qui est agréable à l'œil. C'est bien composé, voilà. En résumé, ce que j'aime. Il y a un peu la nuit dans tout ce qui est mots, bien sûr. Il n'y a rien de trop vif, c'est un peu un rêve, c'est un peu une impression onirique. Il y a une part de mystère. Il y a une part de mystère, il y a des chevaux, il y a des tas de petits détails qui sont sympathiques. C'est beaucoup de végétation, beaucoup de... un paradis, un jardin, je sais pas, ça peut être une chose comme ça. Voilà. Puis il y a un bâtiment au fond, là. Bon, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Ça, c'est le mystère. Et... Non, c'est un travail très intéressant.
Donc on vient de rejoindre Arnaud Rochard. Bonjour Arnaud.
Bonjour.
Donc on est devant tes œuvres, les œuvres que tu présentes dans le cadre de cette exposition Itinerantia. Est-ce que tu peux déjà peut-être te présenter brièvement et puis parler de ton travail pour arriver jusqu'aux œuvres que tu as décidé de présenter ici ?
Pour me présenter, moi je suis originaire de la région, je suis grandi à Guérande et j'ai fait mes études à Quimper, à l'École des Beaux-Arts de Quimper. Pendant ces études, j'ai fait un Erasmus à Bruxelles, c'est pour pourquoi, après mes études, j'ai souhaité venir vivre à Bruxelles, justement. Donc j'ai vécu 10 ans dans la capitale de la Belgique. Et j'avais, voilà, au bout d'un moment, j'ai eu un peu fait le tour, je pense. En tout cas, j'avais envie de prendre l'air, prendre le large un peu. Et avant de rentrer en France, je m'étais dit que j'avais envie d'avoir une étape un peu importante. Et j'ai choisi de postuler à la Casa, au moment où je me sentais prêt aussi dans ma vie et dans mon travail. Et ça s'est fait à ce moment-là, donc ça a été un peu... la période charnière entre ma vie à Bruxelles et mon retour en France. Mon travail en général, il s'articule beaucoup autour de la gravure. En fait, c'est vraiment la technique que je me suis appropriée aux Beaux-Arts de Quimper. Ensuite, en Erasmus aussi à Bruxelles. Et j'avais un travail de technique qui était un peu plus classique, on va dire, entre guillemets, tout ce qui était les eaux fortes aquatintes, travail sur papier. Toujours dans l'idée du paysage ou du décor, qui était au début de mon parcours un peu plus noir, quoi. Il y avait vraiment un rapport au paysage un peu angoissant, avec des forêts sombres, etc. Et au fur et à mesure de mes expérimentations, de mes voyages aussi, et du fait que j'ai exposé et que j'ai continué à travailler, d'expérimenter dans l'atelier, j'ai voulu un peu développer mes formats et faire intervenir la couleur. Et c'est là qu'il y a eu une espèce de bouleversement aussi, mais même dans ma vie professionnelle. Je bossais avec une galerie à Paris avec qui j'ai arrêté de travailler. J'ai eu un moment sans vraiment expo et sans vraiment d'actualité. Et ça a été un moment pour moi où j'ai pu expérimenter vraiment sans avoir de deadline à remplir. Et j'ai passé pas mal de temps à l'atelier à expérimenter la couleur, mais aussi une technique un peu hybride. Je voulais sortir de la gravure un peu académique comme je l'avais appris pour sortir du cadre et travailler déjà dans des exemplaires uniques et sur d'autres supports, donc c'est le tissu et la toile qui se sont imposés à ce moment-là. Après j'ai eu aussi une résidence qui était assez importante pour moi, c'était à la Villa Bosch au Pouliguen, et là pendant 3 mois j'ai vraiment pu, parce qu'il y avait un très bel atelier avec de la lumière et beaucoup de place, faire des plus grands formats avec cette technique de linogravure sur toile. Voilà, et c'est ce que j'ai continué à Madrid. Mon travail, on va dire au niveau du fond, donc je reste toujours sur du travail en termes de paysage, de représentation d'espace ou d'environnement. Et il se nourrit beaucoup de ce que je vis au quotidien, mais des images aussi que je vais glaner un peu partout. Il y a toutes sortes de documentations, il n'y a pas vraiment de hiérarchie entre mes documentations. En travaillant justement sur toile et en grand format, je me suis de plus en plus intéressé donc à l'art du textile et à la tapisserie. Et j'avais fait aussi une résidence à Tournai, au musée de la tapisserie et du textile, où j'avais la chance du coup donc d'avoir un atelier et d'être aussi baigné dans la collection des tapisseries tournaisiennes. Et là, c'était aussi vraiment une très bonne expérience parce que c'était un musée où il y a une riche collection avec des très grands formats de tapisseries Renaissance, début Renaissance. Et là, ça a été vraiment... je me suis dit, j'ai envie de parler un peu du matériau aussi que j'utilise, c'est-à-dire le tissu dans sa forme plus ou moins monumentale, et aussi le fait que ces tapisseries racontent souvent des histoires, des mythes dont j'ai envie de m'inspirer. Et elles racontent aussi l'histoire, en fait, souvent du lieu où elles ont été créées. Par exemple, à Tournai, il y a beaucoup de tapisseries donc avec du fil de soie, du fil d'or, etc., qui étaient utilisées, qui servaient aussi à montrer la richesse un peu des artisans à l'époque. Donc, il y a eu tout ce rapport à l'artisanat qui m'a beaucoup intéressé. Et lorsque j'ai candidaté à la Casa de Velázquez, j'ai cherché justement quel était l'artisanat, quels étaient les savoir-faire de la péninsule ibérique dont je pourrais parler, que je pourrais m'approprier pendant la résidence. Et donc j'avais acheté un bouquin sur les azuleros, le musée des azuleros de Lisbonne, quelques années avant dans une librairie au musée de la piscine de Roubaix. Et en fait, quand j'ai retrouvé ce bouquin, j'étais en train de cogiter pour la casa, chercher un peu le projet que je voulais proposer. Et tout ça, ça s'est fait assez naturellement, de proposer donc ma technique de travail sur toile, mais en transposant un peu dans l'univers de l'azuleros, donc du motif répétitif, du motif qui soit animalier ou alors géométrique. Et donc du coup, voilà, il y a eu un moment où j'ai voulu mettre en juxtaposition ces motifs répétitifs et mon travail du paysage. Donc c'était justement la résidence à la Casa, c'était une opportunité pour pouvoir construire des nouvelles pièces où mes paysages dialoguaient avec une image plus graphique et répétitive qui est celle qu'on trouve beaucoup dans les azuleros, quoi.
Donc là, on est face à l'impression sur tissu.
C'est ça, ouais.
Qui vient dialoguer donc avec d'autres supports.
Oui, bah là il y a des gravures sur bois aussi que je montre. Donc, les deux paysages en gravure sur bois, je les ai dessinés. C'était déjà il y a un moment, c'était pendant le confinement, et c'était un moment où j'avais justement pas mal de temps pour me remettre à dessiner et à faire des petites gravures assez détaillées et inventer comme ça un paysage un peu fantasmé entre le jardin, la forêt, la jungle. On ne sait pas trop. Il y a aussi des animaux, il y a des chauves-souris, il y a un côté un peu retour un peu au primitif, quoi. Il y a un truc un peu comme ça. Et aussi cette idée de la rivière en fait qu'on va traverser. J'avais été pas mal inspiré par Voyage au cœur des ténèbres de Joseph Conrad. Et toutes ces histoires aussi où on a un personnage qui traverse un peu un milieu plus ou moins hostile, sauvage ou pas, en tout cas, ou une espèce de quête aussi vers un ailleurs ou quelque chose qu'on cherche ou qu'on attend, on sait pas trop. Donc ça, c'est ces deux paysages. Donc j'avais fait les gravures il y a un moment et je les ai ramené lors d'une résidence que j'ai eue à Palma de Mallorca, donc grâce à la Casa de Velázquez. Tous les graveurs qui sont pris à la Casa, ils sont aussi, on leur offre aussi une résidence à Palma de Mallorca, à la Fondation Miró. où il y a tout le matériel pour faire de la gravure et c'est super. Et en plus, c'est dans un lieu qui est magnifique. C'est en hauteur, on voit la mer, on voit les palmiers. Enfin, c'est un paysage qui est dingue, quoi. Donc j'ai passé 2 semaines là-bas et Johan, qui est le technicien en fait, qui travaille là-bas, qui est aussi artiste, m'a un peu montré les gestes pour aborder une technique que j'avais envie depuis un moment de faire. C'est la technique Mokuhanga, en fait, qui est la technique des estampes japonaises. Donc à la différence de mon travail habituel ou de ce que j'avais appris à l'école, c'est que là c'est avec une encre à l'eau, une encre liquide, et le papier il doit être aussi humidifié. Du coup ça permet d'avoir des images un peu plus avec des fondus, des dégradés, et quelque chose d'un peu plus... une texture vraiment différente, quoi. Il y a un côté un peu humide, quoi, et que je trouve que ça marche bien avec ce paysage de marécage. Voilà. Donc là, il y a 2 gravures avec les mêmes plaques, mais qui sont imprimées dans des couleurs différentes, ce qui donne un peu aussi une idée de peut-être d'une heure de la journée. Enfin, il y a un rapport aussi au temps, au crépuscule.
Oui, c'est la même image, mais juste en changeant les couleurs, ça. Ouais. Réussi à pas parler exactement de la même.
Oui, c'est ça. Et du coup, dans l'accrochage, ça communique aussi avec les 2 autres toiles qui sont dans les mêmes tons.
Voilà, et tout à droite, on a un autre support encore.
Bah là, c'est une toile du coup qui est sur châssis, donc contrairement à la plus grande qui est elle est libre comme ça. Celle-ci, c'est voilà, comme je disais tout à l'heure, par rapport, donc c'est une des premières que j'ai fait à la Casa, qui regroupe un peu toutes mes préoccupations du moment, donc un paysage où on flirte entre l'abstraction et le figuratif. On a des éléments comme ça qui nous rappellent des éléments du paysage, mais c'est aussi un espèce de magma, de forme aussi plus ou moins végétale, organique, un trou un peu dans le paysage qui nous appelle, une sorte de profondeur comme ça, avec un fond, le fond rouge aussi qui rappelle un peu les terres rouges de l'Espagne, et ce bleu plus électrique que je cherchais. Il y a aussi un rapport un peu à l'art médiéval avec ces couleurs qui sont très vives, quoi, et j'adore ces bleus qu'on trouve aussi dans les vitraux. Il y a quelque chose de très lumineux. Donc il y a toujours un peu ce rapport à l'histoire de l'art, à l'art médiéval, à l'art de la Renaissance. Et les carreaux de céramique dont je me suis inspiré, donc là avec des têtes de lion, je les ai trouvés dans un musée à Madrid. Donc voilà, j'ai repris le motif et je l'ai repris tel quel sous forme de tampon en 3 couleurs. Donc voilà, il y a un travail du geste aussi répétitif. On peut rappeler les azuléros, mais aussi les carreaux de ciment... qu'on trouve plus même en Belgique, dans les maisons. Enfin, y a un rapport aussi à l'espace domestique, en fait, à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, j'aime bien de plus en plus peut-être chercher encore plus ce rapport entre l'espace domestique, donc chez soi, où on a le rapport au papier peint, au carrelage, au carreau, et son extrême opposé, on va dire, qui serait plus un environnement naturel dans lequel on a plus ou moins envie de s'aventurer aussi. Il y a une espèce de décalage comme ça que j'aime bien créer, quoi.
Une sorte de fenêtre.
Ouais, entre l'intérieur et l'extérieur, quoi. Rapport à l'architecture et au végétal.
Si on veut en savoir un peu plus sur ton travail, est-ce qu'il y a des endroits où on peut aller voir ça?
J'ai un site internet qui est arnaudrochard.com, donc qui est assez récent. Et sinon, j'ai une prochaine expo, donc une expo collective à Castres au musée Goya, donc c'est en octobre. On sera 3 artistes de la Casa de Velázquez à dialoguer avec les collections du musée, et une exposition solo à la galerie Félix Frachon à Bruxelles en décembre. Donc là, il y a un petit peu le temps encore.
Il y a le temps, mais c'est quand même des prochaines actualités.
Ouais, c'est ça.
Très bien. Eh bien, j'invite les auditeurs et auditrices à se déplacer dans l'espace d'exposition Itinerancia pour découvrir ton travail, Arnaud. Merci beaucoup pour ces explications, et puis je te souhaite une belle fin de journée.
Merci à toi.
Au revoir.
Au revoir.
Je suis à chaque fois toujours étonnée par la vitalité artistique des œuvres qui nous sont proposées chaque année ici. Et merci Rosane de nous accueillir dans cette belle école des Beaux-Arts. La diversité des esthétiques, des thématiques, des techniques, et je pense le reflet de la qualité du travail et de la Casa Velázquez. Cette institution qui, je crois, cette année, rentre dans sa 95e année. Et à 95 ans, on peut parler d'une grande dame de l'art international contemporain. Au département, on présente souvent pour présenter notre politique, on défend l'ambition d'une culture pour tous et partout en Loire-Atlantique. Il s'agit, au fond, de permettre à la culture de tracer son chemin, de donner les moyens aux artistes de créer, de diffuser, et par l'éducation, la médiation, permettre au plus grand nombre de faire une rencontre avec l'art. Dans un monde assez utilitariste et mercantile, il est bon de rappeler que chacun, chacune, a le droit à la beauté, à l'émotion. Et je crois que ce lien qui nous lie avec la Casa Velázquez traduit bien et parfaitement nos convictions communes. Et je veux, si vous me le permettez un instant, insister sur ce compagnonnage que nous avons depuis de nombreuses années avec la Casa Velázquez, cette belle école française madrilène. Dire que dans l'ère de l'immédiateté, des contrats à court terme, il faut, je pense, toujours revendiquer l'utilité, le temps qu'il faut passer. Le temps qu'il faut pour inventer pas à pas les chemins qui permettront aux artistes et leurs œuvres de rencontrer le public. Ce temps peut être le temps d'une itinérance.
C'était Ceci n'est pas une pipe, l'émission qui vous parle d'art contemporain sur Jet FM 91.2. On vient de découvrir l'exposition Itinerencia qui présente le travail de Nadia Alboukaï, Carmen Ayala Marine, Chloé Belloc, Maxime Biou, Mathilde Letiboudois, Anna Lopez Luna, Eve Malherbe, Alberto Martin Menacho, Adrien Menu, Pablo Pérez Palacio, Arnaud Rochard, Mary Sales et Julie Mac, résidents et résidentes de la Casa de Velázquez de Madrid en 2021 et 2022. Un grand merci à Virginie Bourget qui nous a présenté le dispositif de résidence de la Casa de Velázquez et l'exposition Itinerencia. Et aux artistes Julie Maquet et Arnaud Rochard pour la présentation du travail qu'ils ont réalisé à la Casa de Velázquez et qui est visible dans l'exposition Itinerencia jusqu'au 20 mai à l'École des Beaux-Arts de Nantes-Saint-Nazaire, 2 allée Frida Kahlo, sur l'île de Nantes. L'exposition est ouverte du mercredi au samedi, de 13h à 18h. J'espère vous avoir donné envie d'aller la voir. Chers auditeurs et auditrices, merci pour votre écoute. Cette émission a été produite par l'association Already Made, réalisé par Marine Combe. On se retrouve en juin pour la prochaine émission et pour continuer de regarder avec les oreilles.